France Inter.
France Inter, le 18-20. Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour dans la vie de quatre réfugiés syriens ce soir.
Est-ce que je pourrais être un jour français? Est-ce que je suis encore syrien? Et est-ce que je veux être franco-syrien? C'est ça qui devient dur. Tu peux pas tout quitter. Ça va te suivre partout. Même si tu vas sur la lune.
Elle est tellement jolie, cette phrase de Raïs, que le réalisateur du film, Laurent Rodriguez, en a fait le titre de son film, Même si tu vas sur la Lune, un documentaire qui est en salle depuis hier. On mettra peu de salles, évidemment, pour un documentaire, mais on mettra vraiment la liste sur le site de l'émission dans un petit instant. Nous suivons donc quatre jeunes Syriens d'une vingtaine d'années, un professeur qui est aussi devenu leur ami. On les voit évoluer, ça dure 6 ans, ce film. Et autour de nous, quelques-uns, j'allais dire de ces acteurs, mais en réalité de ces protagonistes, on va le dire comme ça. Raïs El Ali, vous êtes avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est avec vous que je commence parce que c'est vous qui prononcez cette phrase. Quand le film commence, vous avez 18 ans. Vous venez d'arriver, vous êtes le plus jeune. Et ce qui est vraiment intéressant chez chacun d'entre vous, c'est que vous changez tous et vous êtes peut-être celui qui changeait le plus pendant ces 6 ans, y compris physiquement. D'ailleurs, ce qui est assez émouvant à regarder. Sarah Contar, bonsoir.
Bonsoir.
Vous aussi, vous changez beaucoup. Vous avez beaucoup coupé vos cheveux, d'ailleurs, oui, qui étaient beaucoup plus longs lorsque ça a commencé. Votre regard à vous aussi a changé au cours de ces années. Vous avez étudié aux Beaux-Arts et vous nous direz où vous en êtes aujourd'hui. Emmanuel Charrier, là également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous, c'est le prof à Paris 1, c'est vous qui avez coordonné un programme d'apprentissage du français. C'est là qu'on les retrouve, tous nos amis qui sont passés, au fond, par chez vous, qui sont aussi devenus vos amis. Et vous nous direz ce que deviennent ces programmes aujourd'hui pour les réfugiés. Raïs, puisque c'est vous qui avez démarré, qu'on vous a entendu, je me demandais si cette phrase qu'on a entendue, vous la prononceriez encore. Tu peux tout quitter, mais ça te suivra partout, même sur la Lune, aujourd'hui, plusieurs années après, est-ce que cette question-là, est-ce que je suis syrien, est-ce que je suis franco-syrien, est-ce que je peux devenir français, est-ce que vous y avez répondu? Est-ce que c'est toujours dans un flottement?
Je pense en tout cas que ma réponse n'est pas encore complète jusqu'à maintenant, en fait, et je ne vais jamais l'avoir, en fait, comme une réponse complète. C'est comme ça qu'on apprend. L'autre fois, j'ai dit à Manu, en fait, le parcours de l'exil est un exil lui-même, en fait. C'est surréaliste. Et donc, 8 ans, et là, j'ai terminé ma 8e année en France. Non, j'ai pas vraiment une réponse à cette question, mais c'est vrai que, oui, ça va pas s'arrêter, en fait, ça va nous suivre. C'est quelque chose qui s'est passé dans notre histoire et un voyage hyper important. Et je pense à un âge, à un certain âge. Personnellement, moi, j'avais 18 ans, donc ça a des fois bouleversé, des fois perturbé, des fois même amélioré ma vie. En tout cas, non. Pas de réponse encore.
Ah bah, mais je vous poserai la même question à vous, Sarah, dans un petit instant. Je voudrais d'abord me tourner vers vous, Emmanuel Charrier, parce que toutes ces discussions tournent beaucoup autour de ces questions-là. Qui suis-je réellement? Est-ce que je suis toujours syrien, effectivement? Est-ce que je vais revenir? Est-ce que je dois rester? Comment je construis? Tout ça, ça se passe beaucoup autour de la table de votre cuisine, tout simplement, dans des discussions très très informelles. Vous les écoutez, vous encouragez cette parole-là. Vous l'avez vu tourner dans leur tête, cette interrogation.
Oui, et parce que c'était pour beaucoup des étudiants dans leur pays qui ont dû partir donc et qui ont arrêté leurs études. Et il me semblait indispensable donc de ça me semble indispensable que toutes ces personnes puissent reprendre leurs études et ensuite pouvoir construire un avenir.
Et c'est ce qu'ils ont fait, ils nous raconteront où ils en sont aujourd'hui. Je disais tout à l'heure qu'on les a vus changer, y compris physiquement. Est-ce que vous aussi, vous les avez vus changer, en fait? Et est-ce que ça vous épate, au fil du temps, finalement, de voir comment ils se fondent dans leur nouvelle vie d'aujourd'hui?
Bien sûr, et moi je suis très impressionné, évidemment très fier de leur parcours, de leur histoire. Et ils étaient très très jeunes. Et c'est vrai que quand on a 18 ans, maintenant ils ont 25, 26 ans, et entre 18 et 25 ans, on change énormément. Donc ça a été à la fois très émouvant et très intéressant à suivre.
Sarah, je vais vous poser la même question, mais je voudrais qu'on vous entende d'abord.
J'arrive plus à m'identifier à cette société. Déjà, j'arrive pas à m'installer psychologiquement en France. Et en même temps, j'arrivais à un point où quand je pense à retourner là-bas, ben il n'y a plus ma place dans cette vie, en fait.
C'est vrai.
Et je suis entre les deux.
Entre les deux.
Je comprends plus rien.
Le petit c'est vrai derrière, il est tellement mignon. Je sais pas si c'est vous, Raïs, qui dit oh, ben c'est vrai quand même. Ouais. Moi, je me demandais, Sarah, si vous aviez trouvé votre axe, en fait, désormais, au fil du temps. Cette question, elle est tellement légitime. Et vous êtes tellement jeune. C'est là qu'on se construit. Donc, effectivement, le pays où on se construit devient le sien. Et en même temps, on regarde en arrière là d'où on vient. Et je comprends cette espèce de mélange dans votre tête. Vous avez l'impression d'être sur votre axe ou pas, là?
Beaucoup mieux qu'avant, surtout à l'époque où on a tourné ce film en 2019. Je pense à... Il y a quelques années, je sentais que je devais appartenir à... Je devais choisir. Je devais me dire que je dois m'installer physiquement et psychologiquement dans un seul lieu. Et je me sentais coupée en deux. Et aujourd'hui, en fait... C'est pas que j'ai choisi, c'est que j'ai compris que c'est entre deux qui est pas très grave finalement. Je suis pas seule dedans, en fait il y en a beaucoup de gens et il y a toute une culture autour, il y a beaucoup de choses à travailler.
Ce qui est intéressant, c'est que vous étiez étudiante en architecture à Damas, vous êtes arrivée, vous avez fait les beaux-arts.
Les arts déco,
pardonnez-moi. Oui. Vous avez raison, c'est pas pareil. Vous avez fait les arts déco, vous avez réussi. Et la question que je me posais, c'est, j'ai l'impression que vous êtes la seule dans ce groupe, on posera la question à Emmanuel dans un instant, à avoir profité de l'exil malgré tout pour inventer quelque chose ou même réinventer quelque chose dont vous saviez que vous ne pouviez pas l'atteindre à Damas finalement.
Vous voulez dire faire de l'art?
Faire de l'art, par exemple. Vous le dites d'ailleurs, vous avez cette phrase, être artiste en France c'est difficile, être artiste en Syrie c'est impossible.
C'est ça, ouais. C'était pas un choix, je pouvais pas faire ça, du coup j'ai fait l'architecture. J'ai eu l'opportunité, et c'est un côté que j'aime beaucoup en France, c'est qu'on m'a donné ce choix-là. Et c'est ce que j'ai fait. Par contre, après, quand je travaille aujourd'hui, je te dis l'art, pour finalement travailler sur les sujets qui me font de la peine ou qui sont durs. Et du coup, on revient un peu sur, sur quelque chose qui revient un peu compliqué. Mais finalement, c'est mon outil. L'art, c'est qui je suis.
C'est intéressant, Emmanuel Charnier, parce qu'il y a un autre artiste dans le groupe, il est rappeur, et il dit un peu ce que vient de dire Sarah, en fait. Il y a un moment très émouvant où il dit « Je suis là, je suis content d'être là ». C'est d'ailleurs le seul qui est capable, quand on dit « Est-ce que tu vas revenir ?» Lui, il se dit « Ben, j'en sais rien, en fait ». Mais il a cette phrase géniale, il dit « Je suis en France, je suis bien en France, mais dès que je chante, je parle de Syrie ». Et au fond, elle nous dit la même chose, Sarah. Là.
C'est ça. C'est exactement ça.
Exactement, et c'est la problématique de beaucoup d'artistes qui ont fui leur pays en guerre, que ce soit la Syrie, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit d'autres pays. On en rencontre beaucoup à l'université, et c'est vrai que c'est aussi un moyen pour eux de communiquer, de transmettre les messages qu'ils ont envie de transmettre aux personnes qui sont encore restées là-bas et pour lesquelles ils se battent ici en France.
Ce qui est très émouvant, Raïs, aussi, et c'est le cas de vous tous, c'est que c'est le rapport avec vos parents. On vous voit tous entre amis, mais vous vivez parfois tout seul, mais parfois chez vos parents. Parfois, vos parents sont avec vous, parfois certains de vos parents sont restés en Syrie. Et au fond, vous dites tous, parce que vous êtes très jeunes, qu'il y a un décalage aussi entre leur vie et la vôtre. Est-ce que là aussi, vous avez le sentiment que ces années-là vous ont permis d'être compris aussi par la génération précédente et d'avoir recadré vos rapports avec votre famille?
Je pense pendant 7 ans, 7 ou 8 ans, là, pour moi aussi, c'est voilà, 8 ans. En fait, on a appris beaucoup de choses et aussi on a appris en fait comment il faut expliquer à la génération peut-être précédente, mais même enfin à la génération qui va venir ou à la génération qui est déjà venue, comment en fait il faut leur expliquer les choses.
Parce que pendant le film, vous dites bien tous, est-ce que t'en parles à tes parents, et vous répondez non en fait, parce que c'est trop compliqué à expliquer, donc j'en parle pas.
Vous savez, dans le film, il y a la séquence où moi je donne un cours à des élèves.
Absolument.
En fait, des collégiens.
Ouais.
Et c'est pareil en fait quand on regarde, il y a, par exemple, d'un côté il y a des gens qui nous comprennent et qui veulent plus entendre en fait parler de ces histoires, et peut-être ça peut être nos parents parce qu'ils ont déjà aussi vu la guerre et c'est hyper compliqué pour eux. Mais il y a aussi des par exemple la nouvelle génération, quand je donnais des cours, les collégiens ils me posaient des questions sur ça, surtout qu'on a tourné la séquence devant eux en fait. Et je répondais pas aux collégiens en fait, surtout leurs questions c'était sur la guerre, etc. Donc j'ai appris en fait comment gérer ça. Au début je savais pas faire,
et je me demande si les questions sont toujours les mêmes. Au début vous m'avez fait rire parce qu'autour de la table vous dites les gens me posent des questions complètement débiles, en fait ça n'a aucun sens. Est-ce que les questions ont changé vis-à-vis de vous, les réfugiés syriens, ou alors est-ce que on vous pose plus la question, en fait on vous demande plus de vous êtes, On n'identifie plus votre accent, donc c'est fini.
Si, si, ça continue, oui.
Tu peux pas t'enfuir de ton origine, de ton passé. Même moi, je m'accroche à la Syrie. C'est pour ça que j'ai fait un tatouage « Memories don't die ». Mais en vrai, les souvenirs meurent. Parfois, ça me fait mal d'oublier. Mais parfois, ça me donne de la joie, parce qu'il faut oublier.
Cette phrase, Emmanuel Charrier, il faut oublier, elle serre les tripes quand même.
Ah oui, oui, c'est très émouvant, oui.
Ouais. Et vous vous souvenez de ce moment-là, Raïs, c'est vous qui parlez, c'est votre tatouage dont il est question à cet endroit-là. Ouais. Est-ce que vous le diriez aujourd'hui de la même manière, il faut oublier? Ou est-ce que maintenant que vous êtes un peu mieux recalé, la France et la Syrie peuvent avancer en parallèle?
Ben ça dépend ce qu'on veut oublier. Après il y a des choses il faut sûrement pas les oublier, mais il y a d'autres choses oui. C'est vous savez c'est une guerre en fait, donc c'est un trauma à vie qui marque. Donc je pense quand même pour aller mieux, surtout comme elle dit Sarah psychologiquement, oui il y a des choses qu'on devrait plutôt les oublier, mais pas tout. Ça c'est sûr aussi.
Je vais vous demander ce que vous êtes devenus les uns les autres rapidement, mais je voudrais quand même finir avec ça.
Si tu n'existais pas, tu ne dirais pas que j'existerais.
Donc il sera dit, Emmanuel Charrier, que vous avez contribué à apprendre le français à des réfugiés syriens par Joe Dassin. Et visiblement ça marche parce qu'il a retenu les paroles. Ah, il rigole Raïs, mais il a totalement bien retenu les paroles, hein, sérieusement. Mais c'est important et ça marche
bien sûr,
visiblement.
Bien sûr, bien sûr.
La manière dont vous avez organisé un accueil à Paris 1, Emmanuel Charrier, n'existe plus aujourd'hui, mais il y a d'autres systèmes évidemment qui existent. Est-ce que ça roule? Est-ce que ça fonctionne désormais? Et là, nous avons de jeunes Syriens, vous l'avez utilisé, j'imagine, aussi pour les Ukrainiens qui sont arrivés. Est-ce qu'on est dans une mécanique désormais?
Nous accueillons aujourd'hui des personnes d'Ukraine, d'Afghanistan, de Syrie, de Soudan, du Tchad, du Bangladesh. Alors il y a eu un collectif qui s'est monté en 2018 qui s'appelle le réseau MENS, Migrants dans l'enseignement supérieur, et c'est un collectif d'une cinquantaine d'universités et d'associations qui ont construit un diplôme qui s'appelle le diplôme passerelle et qui est maintenant reconnu au niveau national par le ministère. Donc on a beaucoup de ces diplômes et des personnes qui viennent étudier le français à l'université, ce qui ensuite leur permet d'entrer en licence ou en master.
Est-ce que vous avez fait les uns les autres, Sarah, qu'est-ce que vous faites désormais?
Alors moi j'ai fini les arts déco, oui. C'est le master. J'ai réalisé un film l'année dernière, un court-métrage, bah, d'ailleurs sur ma relation avec mon père.
Ok, intéressant.
Si on revient à la famille un peu. Du coup je fais un projet d'art autour. Et je fais de la photographie aussi. Voilà.
Vous êtes resté artiste, Raïs, qu'est-ce que vous faites maintenant?
Oui, moi, après avoir terminé mes études à la Sorbonne, j'ai pris le chemin aussi d'une école de commerce et je travaille en fait dans une entreprise et je donne deux cours de langue dans une faculté.
On vous souhaite une très très joyeuse et très jolie route à tous. Le film est très joli, signé Laurent Rodriguez. Il s'appelle « Même si tu vas vers la lune ». Et très très rapidement, je voudrais dire que Sarah, c'est vous qui avez fait les petits passages d'animation. C'est Riley qui est musicien, qui a fait la musique. Et c'est vous, Raïs, qui avez traduit les passages où il y avait besoin de traduction. Je vous remercie chaleureusement tous les trois. Vraiment, merci beaucoup.
Merci. Le 18-20, Fabienne Saint-Esse. Sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe en Côte d'Ivoire où les habitants les plus précaires s'endettent à cause de machines à sous que les Chinois ont posées partout dans le pays pour aller jusqu'à 19h. Kevin Dufresne, sous les radars.
En Italie, un nouveau défilé fasciste, 1500 personnes bras tendus dans les rues de Milan.
Le Monde à 18h50, c'est vous Franck Madvon, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Emmanuel Macron donne une interview à The Economist. L'Europe est toujours pour lui en danger de mort.
Et comme chaque jeudi, la tech la première, Stéphane Jourdain. Salut Stéphane.
Bonsoir Fabienne, on parle de tyrannie des algorithmes, est-ce qu'il ne serait pas en train d'aplatir toutes les différences culturelles?
Allez, à tout de suite, restez avec nous, le tour de la planète continue après The Libertines, Night of the Hunter sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
Round the handles of a blade, on the knuckles, round the handles of a blade, a bloody blade. Now here it comes, all the flashing lights.
you know it won't be long. Time for the radio to play your last song, your last song. I'm just calling to tell you, baby, that they're taking me away for a while. Well, don't blame me, it's the world that made me, and they're taking me away for a, taking me away for a.
C'est donc en Côte d'Ivoire que nous sommes, qui a vu ces dernières années déferler dans les zones urbaines, dans les villages, des machines à sous, des machines artisanales dites machines chinoises, parce que ce sont les Chinois qui les installent et qui en retirent évidemment aussi les bénéfices. Et quels bénéfices ? Les machines sont dans les marchés, dans les kiosques, les maquis, avec des Ivoiriens de plus en plus nombreux à se laisser prendre par l'addiction au jeu. Évidemment, ce sont les plus précaires qui sont les plus fragiles, les cultivateurs en particulier finissent par dépenser tout leur salaire, voire à s'endetter. Insidieusement, la pratique des jeux d'argent se répand dans tout le pays et aggrave la pauvreté. Le reste, c'est François Humfer Kataji qui raconte.
Trois machines à sous sont installées sur le trottoir dans une rue de l'ancienne ville coloniale de Grand Bassam. Des jeunes se sont réunis autour de ces bandits manchots aux lumières colorées et dansantes. Sur les panneaux, des images de jolies femmes ou de joueurs de foot célèbres. Pour jouer, il faut choisir une marque de voiture Ferrari, Porsche ou Honda. Frédéric Sosso est gérant d'un maquis, un restaurant de plein air. Il a accepté la proposition des entrepreneurs chinois qui lui ont soumis l'idée d'installer ces machines chez lui.
Les machines chinoises, comme vous les connaissez, ils sont venus, ils ont berné sur eux la population. Quand ils sont arrivés, ils nous ont dit, celui qui dépose chez lui, je vous dis, il n'a rien à perdre. Seulement ceux qui jouent, je vous dis qu'ils ne gagnent jamais rien.
Le principe est simple. Le commerçant récupère 10% des gains et les propriétaires de la machine, le reste des recettes. Pour Frédéric Sosso, c'est un petit business supplémentaire dont il profite.
Parce que quand il vient et qu'il me donne un peu d'argent et tout ça, ça me permet de compléter et payer ma facture. Ça ne me regarde pas.
Mais il constate amer la façon dont la jeunesse ivoirienne se perd dans l'addiction au jeu à coups de pièces de 100 francs, soit 15 centimes d'euros.
Quand il met ses pièces, il dépose 100 francs. Ça donne une chanson, les Champs-Élysées. Et quand tout le monde entend Champs-Élysées, on entend Paris, on a envie de jouer, on veut partir à Paris. Mais ces jeux sont venus pour encore permettre à la population de vivre encore une pauvreté atroce.
Frédéric Sosso multiplie les exemples de jeunes qui perdent des dizaines de milliers de francs CFA dans ces machines, dans un pays où le coût de la vie est l'un des plus élevés du continent. Nous rencontrons Prince, maillot des Chicago Bulls sur le dos et une bière à 8 degrés dans la main. Il est addict au jeu depuis plusieurs années.
Tu sais, c'est le jeu d'hasard. Quand ça est dans le sang, tu es obligé de toujours jouer, quoi. En environ, il peut dépenser au moins un SMIC de la Côte d'Ivoire, si tu veux. Au moins 80% de mon salaire, et après, il voit.
Un SMIC de la Côte d'Ivoire, soit environ 114 euros.
Parce que si tu ne joues pas, tu ne peux pas gagner. Mais à chaque fois, ça te foque, quoi. Ouais, parce qu'ici, là, on perd beaucoup. Souvent, mes nerfs, souvent, ils cassent la machine, quoi. Ouais, parce qu'ils perdent trop. Après, ils sont obligés de payer, quoi, de rembourser la machine.
Face à la montée des tensions liées à ces addictions, en zone urbaine, mais surtout en zone rurale, où les machines viennent perturber la vie villageoise, le gouvernement a décidé d'agir pour la première fois en organisant au mois de février dernier à Boisflay une opération de destruction des machines à sous chinoises sous les yeux des caméras.
Ces machines à sous illicites, je dis bien illicites, qui sont exploitées par des opérateurs clandestins.
Ibrahim Adosso est directeur des ressources humaines à l'autorité de régulation des jeux de hasard.
Sont ouvertes aux jeunes gens et à des mineurs, ce qui est formellement interdit par la loi. Et c'est ce qui a motivé l'RJH à procéder depuis quelques temps au démantèlement de ces machines à sous illicites qui prolifèrent un peu partout dans les villes et dans les villages.
Pourtant, selon trois témoignages que nous avons recueillis, la corruption des autorités locales ou de la police permet à ce business de prospérer. Cette gérante de maquis raconte comment sa machine a été confisquée, puis finalement restituée dans les heures suivantes.
Une fois la police était là, ils sont venus, ils ont demandé à qui appartient le jeu. Ils disent c'est aux Chinois. Et ils ont demandé pourquoi on a ce jeu ici. Bon, on leur a expliqué, ils ont pris la machine et j'ai appelé le Chinois. Le Chinois a passé là-bas à payer l'aide à Jean et le Chinois m'a remboursé ce que moi j'ai donné aux policiers. Le Chinois dit c'est bon, lui, j'ai. Et effectivement, il a géré. Et tout est revenu à notre avec les policiers.
Au-delà même des machines illicites, l'Afrique est le nouvel Eldorado pour l'industrie du jeu. En 2024, elle devrait générer plus d'1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires, un record. Ce business juteux pour certains est un fléau qui fait des ravages parmi une population déjà en proie aux difficultés financières.
François Humfer-Kataji pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale se faufile parfois sous les radars mais n'échappe pas à la vigilance de Kevin Dufraîche.
Hay más de 1 million de municiones perdidas.
Et c'est d'abord en Colombie, Kevin, que nous sommes avec un président un peu gêné.
Au moment de faire l'inventaire devant la presse, de plus d'1 million de munitions perdues. Perdues, c'est bien le mot employé par Gustavo Petro, mais elles ont évidemment été volées, hein, ces munitions. L'armée colombienne a compté. Et il manque en effet des millions de munitions dans deux casernes du pays. En grande majorité, on parle de balles pour des fusils d'assaut, par exemple, mais aussi des milliers de grenades et même de missiles, des missiles air-sol ou des missiles anti chars, des armes de guerre. Donc, alors comment est-ce possible? Gustavo Petro ne voit qu'une seule explication. Il y a des militaires ripoux, tout simplement. Le président colombien parle de réseaux composés de militaires et de civils qui fournissent depuis des années ainsi les groupes rebelles armés ou les gangs de narcotrafiquants en Colombie. Mais ces armes sont aussi utilisées à l'étranger, notamment en Haïti, a dit Gustavo Petro.
Et nous voici en Italie, où le parquet de Milan ouvre une enquête.
Après une nouvelle manifestation fasciste en pleine rue, c'était lundi soir à Milan, 1500 militants d'extrême droite commémorent comme chaque année la mort de Sergio Ramelli, militant fasciste tué en 1975 par des membres d'un groupe d'extrême gauche. C'était ce que l'on appelle en Italie les années de plomb. La plupart en veste noire, en randonnion, flambeau à la main, un véritable défilé militaire encadré par la police. Et puis comme un seul homme, tous font le salut dit romain, le salut fasciste, un bras tendu, repris comme on le sait par les nazis. Scène récurrente en Italie, encore au début de l'année, un hommage similaire a eu lieu à Rome, réunissant là encore 1000 personnes. Il y a quelques mois, la Cour suprême italienne a confirmé que le bras tendu constitue bien un délit d'apologie du fascisme, mais dans les faits, il n'y a pas de condamnation parce que la Cour demande en fait au juge d'établir qu'il y a dans ces cas, je cite, un danger concret de réorganisation du parti fasciste dissous, impossible à prouver.
Et puis Kevin, nous sommes en Espagne avec une histoire de piscine.
Oui, vous voyez ces grandes piscines sur le bord de la route, dans les zones commerciales, qui font en fait office de vitrine. Aux piscinistes, il y a souvent le nom de l'entreprise et le numéro de téléphone écrit en gros dessus. Et bien voilà ce qu'a décidé de voler un habitant de Tona, petite ville catalane de 8000 habitants, début avril. Il a décidé, en pleine nuit, de dérober cette piscine de 600 kilos. Tout de même, il s'avère que le voleur était équipé d'un camion avec une grue, plutôt pratique en effet pour ce genre de larcin. Il ne s'est pas dit que ça se verrait sur les caméras de surveillance. Il n'a donc pas pris le soin de cacher sa plaque d'immatriculation. Dommage, les policiers l'ont vite retrouvé. Il n'a pas nié, hein, difficile face à tant d'évidence, mais magnanime, il a proposé d'acheter finalement la piscine. Deal accepté, sauf qu'il a aussi dû payer des dommages et intérêts à l'entreprise pour le préjudice subi. Ça fait cher la baignade.
Ah bah dites-moi, Kevin Dufraîche, merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez Aura Sandy?
Non, pas du tout.
Eh bien, vous allez faire connaissance, vous partez avec lui. A Horse with No Name, c'est le titre, il est jamaïcain.
On the first part of the journey, I was looking at all of life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly above and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of a sound. I've been to the desert.
remember your name, because there ain't no one for giving a pain. La 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 la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days
de A Horse With No Name, signé Horace Andy, qui est jamaïcain, sur France Inter et dans Un Jour dans le Monde. Le Monde à 18h50, c'est Franck Madvon.
Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Franck Emmanuel Macron donne une nouvelle fois sa vision de l'Europe dans une interview au magazine The Economist. Et ce soir, vous nous dites pourquoi le président français continue à dramatiser les enjeux européens.
C'est le service après-vente du second discours de la Sorbonne jeudi dernier. Emmanuel Macron avait mis en garde. L'Europe peut mourir depuis le président français a donné une interview à la presse régionale pour diffuser le même message, avec en prime l'ouverture d'un débat sur l'inclusion de l'arme nucléaire française dans la défense européenne. En clair, Emmanuel Macron, on l'a bien compris, est en campagne pour les élections européennes du 9 juin. En France, son gouvernement se heurte à des difficultés, aux colères sociales, déficits. Il veut donc européaniser le débat. Son entourage y voit le moyen, pour son parti Renaissance, de combler une partie au moins de son retard sur le Rassemblement national dans les sondages.
Et en parlant à The Economist, Emmanuel Macron, Franck, vise cette fois un public européen.
Oui, il n'a pas pour seul objectif les élections à venir. L'Élysée espère que ses interventions vont provoquer un débat dans les chancelleries européennes, une prise de conscience que l'UE vit un moment charnière. Dans cette interview, le président français reprend donc toutes les idées de ce discours bis de la Sorbonne, mais les adapte à un autre public sur la lutte contre le populisme, l'extrême droite. Emmanuel Macron étrenne, par exemple, une nouvelle formule. Tous les nationalistes européens sont des Brexiteurs cachés. À l'heure où une majorité de Britanniques regrette la sortie de leur pays de l'Union européenne, le message peut faire mouche.
Et le président français redit que l'Europe est en danger de mort.
Oui, pour trois raisons. D'abord, le risque démocratique, on vient de l'évoquer, cette résurgence du nationalisme. Et puis pour Emmanuel Macron, l'Europe est exposée à deux autres risques qui la menacent d'une mort qui peut être, dit-il, beaucoup plus brutale qu'on ne l'imagine. La sécurité et l'économie. La sécurité, c'est une priorité car le danger est à nos portes. Un pays, la Russie, doté de l'arme nucléaire, est entré dans une logique de guerre totale, selon Emmanuel Macron. Le chef de l'État veut sensibiliser tous les Européens à cette menace. Il faut une crédibilité militaire commune. Il reprend une idée avancée à la Sorbonne. Il veut un débat au-delà des frontières de l'UE, dans le cadre de la communauté politique européenne. Vous savez, cette union élargie à d'autres pays comme le Royaume-Uni ou la Norvège. Par ailleurs, Emmanuel Macron persiste sur l'éventualité éventuel envoi de troupes au sol en Ukraine. Je n'exclus rien. Si les Russes devaient percer les lignes de front, il faudrait se poser la question. Propos tenus au risque d'agacer certains Européens. Un ministre hongrois y voit ce soir une déclaration menaçante.
Et le risque économique ?
Là, un autre pays est visé, Fabienne. La Chine et ses surcapacités à quelques jours de la visite de Xi Jinping en France. Pékin subventionne, protège et exporte massivement. Les États-Unis font à peu près la même chose. L'Europe doit aussi défendre ses intérêts, déréguler, investir pour être compétitive. Emmanuel Macron, vous l'avez compris, ne fait pas d'annonce nouvelle dans The Economist. Son interview a au moins trois objectifs. Continuer à dramatiser les enjeux pour sensibiliser les électeurs. Deux, préparer le terrain à la possible élection de Donald Trump et donc à moins d'aide en Ukraine, à plus de protectionnisme américain. Trois, s'imposer comme le vrai chef de l'Europe, celui qui voit plus loin que son pays. Sur ce point, comme le souligne le magazine, il manque à Emmanuel Macron un atout, des alliés.
Le Monde à 18h50 et Franck Madvon, merci beaucoup. Le jeudi, on plonge la tech la première et c'est Stéphane Jourdain.
France Inter. Le 18-20.
Stéphane, cette semaine, vous nous parlez de la tyrannie des algorithmes. Si vous avez l'impression que vous regardez tous les mêmes séries que tout le monde, que vous écoutez les mêmes playlists sur Spotify, qu'il y a de plus en plus d'avocats au toast dans les restaurants du monde entier, que les coffee shops se ressemblent de plus en plus, eh bien, vous n'avez pas complètement tort. En tout cas, c'est la thèse d'un livre passionnant auquel vous consacrez cette chronique.
Et oui, Fabienne, un livre américain sur la tech qui cite Pierre Bourdieu et Georges Perec vaut bien une chronique entière. Le titre de ce livre, c'est « Un monde sous filtre, comment les algorithmes ont aplati la culture » et l'auteur, c'est Kayleigh Sheka, journaliste au New Yorker. Sa thèse, les algorithmes façonnent notre façon de vivre, notre culture, nos goûts personnels et donc ce que nous sommes. En clair, nous sommes cernés, les algorithmes prévoient ce que vous allez vouloir regarder sur Netflix, ils vous poussent les mêmes vidéos rigolotes sur Twitter. Et si vous demandez une playlist dimanche soir tranquille à la maison, vous allez avoir les mêmes morceaux partout dans le monde. Et je vous parie qu'il y aura du Gorillaz et The Mamas and The Papas. J'ai demandé à l'auteur qu'il nous donne un exemple concret d'uniformisation du monde à cause des algorithmes.
Une manifestation évidente de cette uniformisation de la culture, c'est le phrasé des influenceurs sur TikTok. Ils parlent un peu tous de la même façon, un ton très spécifique, monotone, un peu comme s'ils faisaient une syncope. Le but, en fait, c'est de faire rentrer le maximum de mots et de détails dans une phrase, pour être sûr que vous n'allez pas arrêter d'écouter. Ils chopent votre attention et ne la lâchent plus, mais ça manque clairement de personnalité.
Un ton monocorde, hyper dense, typique de TikTok, voici un exemple avec une recette en français.
On réserve une fois que c'est cuit, puis on fait revenir les tagliatelles quelques minutes à feu fort dans l'huile d'olive. Pour la sauce, on va mixer la moitié d'une boîte de ricotta avec 2 cuillères à café de pesto de pistache ici, mais vous pouvez prendre du pesto
normal.
Ça va normal,
très vite.
Oui.
Et c'est difficile de lâcher.
Enfin, on va me parler pour vous.
Voici un autre exemple en anglais.
First thing we're gonna do is melt down our butter, add the garlic, sauté it, then add heavy cream, salt, black pepper, Italian seasoning, and just a dash of nutmeg.
Et cette uniformisation des goûts aurait même une incidence sur le monde bien physique.
Oui, par exemple, les coffee shops qui se ressemblent et proposent les mêmes cafés flat white et les mêmes avocado toast à Sydney, Kyoto ou Copenhague. Ou les pizzas napolitaines qui ont pris le pouvoir dans toutes les pizzerias du monde.
Et alors en même temps, attendez, mais c'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'on boit les mêmes Starbucks un peu partout, non ?
Oui, mais justement, jusqu'à maintenant, on mangeait les mêmes burgers et on buvait les mêmes cafés car une franchise plus ou moins à la mode nous donnait envie de le faire. Maintenant, même plus besoin. La franchise, c'est l'algorithme d'Instagram.
Et donc ça pousse votre auteur dans une sorte de nostalgie.
Oui, le temps béni de l'internet d'avant, avant les algorithmes, quand vous alliez picorer des infos sur différents sites web, que vous pouviez découvrir un morceau de John Coltrane parce qu'un blogueur avait décidé d'écrire un post de blog sur un morceau de John Coltrane. Quand vous passiez des heures à surfer sur le web et qu'à la fin vous pouviez dire « j'ai lu tout internet ». Pour lui, la césure date de 2015-2017 quand des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook ou Instagram sont passés à un système de feed algorithmique. Jusque-là, vous lisiez ce que vos amis partageaient. Après cette date, l'algo va vous proposer des contenus que vous n'avez pas sollicités.
Et en même temps, mais attendez, est-ce que c'est pas exactement... C'était pareil avant, quand, avec les radios musicales, avec les guides touristiques.
Alors c'est vrai que ça fait 50 ans pile que le guide du routard ou le Lonely Planet jettent des hordes de touristes dans les mêmes restaurants de Goa ou de Kuala Lumpur. C'est ce qu'on a dit à Kayleigh Sheka.
Oui, on a toujours eu une forme d'homogénéité culturelle. Mais pour moi, le grand changement, c'est quand on est passé d'être humain prescripteur, comme le DJ d'une radio ou l'auteur d'un guide touristique, à un système de recommandations par algorithme qui ne sont basées que sur des datas. Plutôt que d'avoir une personne qui a testé un café à Kuala Lumpur et qui vous conseille d'y aller, vous avez une plateforme qui mesure la popularité d'un café et qui le met de plus en plus en avant. Il est là l'effet pernicieux de l'uniformisation.
Alors il reste une question, Stéphane, comment on fait pour s'en sortir? Quel conseil pour ceux qui ne veulent pas être uniformisés?
Alors le conseil ultime, c'est de se séparer de son smartphone.
C'est dur d'échapper aux algorithmes, on est cerné. Mais c'est possible, il faut ignorer tout ce que les plateformes présentent comme des contenus populaires. Et donc chercher à sortir des sentiers battus, chercher les recoins cachés, chiner les vieux vinyles, aller dans la partie la moins connue d'un musée, ou juste traîner dans la rue sans être le nez sur son smartphone. Notre téléphone a une telle influence sur nos choix, s'arrêter de l'utiliser, c'est une très bonne façon de fuir ce monde sous filtre.
Si vous gardez votre smartphone, l'auteur vous recommande l'appli du New York Times, garantie sans algorithme. Il vous recommande aussi de vous abonner à des newsletters ou d'écouter des podcasts. Et moi, je vous recommande le site ADN, sans algorithme, qui m'a donné l'idée de cette chronique.
Ben écoutez, j'ai l'impression, grâce à vous, d'avoir lu tous les internets. Merci beaucoup Stéphane Jourdain, vous reviendrez jeudi prochain, le 18-20. La suite, c'est le journal de 19h. Avec Hélène Philly, juste après, il y a le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Alors la course à l'échalote dans l'espace, mais pourquoi faire ?
Eh ben oui, la nouvelle conquête de l'espace a commencé. De nouveaux acteurs se lancent, nouveaux pays, nouvelles sociétés privées, Boeing la semaine prochaine. De nouvelles missions sont tentées. On pose toutes les questions ce soir. Quel argent ? Quels acteurs ? Quel but ? Où est la science ? Où est la géopolitique ? On attend vos questions.
01 45 24 7000 et le même chemin par WhatsApp.